On passe tous les jours devant des bâtiments sans vraiment les voir, une école, un vieil immeuble, et on se dit, bon, ils ont toujours été là, ils ont toujours servi à ça.
Oui, on imagine rarement qu'ils ont pu avoir plusieurs vies.
Et pourtant, certains murs ont des histoires incroyables. C'est le cas d'une institution à Rodez, et on va plonger ensemble dans sa transformation qui est franchement fascinante.
Alors pour ce voyage dans le temps, on a une source formidable. C'est le bulletin numéro 63 du Cartoclub Aveyronnais qui date de mai 2016.
Ah oui, une vraie mine d'or.
Complètement. Et il faut vraiment saluer le travail de Guy Mazars, qui est à la fois rédacteur en chef et concepteur de la mise en page. Grâce à lui, on va pouvoir retracer l'histoire de ce lieu.
Et c'est une histoire qui est un peu le miroir des grands changements de la société, de l'éducation, en Aveyron.
Exactement. On va suivre le parcours d'un bâtiment qui a commencé sous un nom Camonil pour finir en tant que lycée Montil. Bon, alors, allons-y. Le premier article, justement, il donne le ton. De Camonil à Montil. D'emblée, on sent une transition, une rupture même.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est le point de départ, Camonil. Les sources sont un peu floues sur l'origine exacte, mais tout porte à croire que c'est lié au lieu-dit, au nom de la terre, tout simplement.
Une identité très ancrée dans le sol, presque terrienne, quoi.
C'est ça. Et c'est là que le changement de nom pour Montil devient si significatif. Passer d'un nom de lieu à un nom de personne, ce n'est jamais anodin.
C'est un acte fort.
C'est un acte politique au sens large du terme. On quitte une identité, disons, géographique pour embrasser une identité républicaine en honorant une personnalité. Et l'article de Guy Mazars lit ça à un moment précis, non?
Oui, tout à fait. Il suggère que ce changement a coïncidé avec la laïcisation de l'établissement au début du XXe siècle. C'est le passage d'une institution privée, peut-être même d'origine religieuse, à...
Une école publique.
Voilà, ancrée dans les valeurs de la République. C'est vraiment la première grande métamorphose.
D'accord, donc on a cette nouvelle identité, Monteil. On pourrait s'attendre à une histoire un peu plus linéaire après ça, mais alors pas du tout.
Ah non, loin de là. Le chapitre suivant dans le bulletin y sort assez brutal dans son titre.
Ah oui.
Fin du pensionnat, c'est direct. On imagine tout de suite les dortoirs qui se vident, une page qui se tourne.
C'est violent comme titre. On se demande ce qui a bien pu se passer, une simple modernisation.
On pourrait le penser, mais l'article va beaucoup, beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste une décision administrative. La source met en avant un facteur très concret.
Lequel?
Le développement des transports dans l'Aveyron après la Seconde Guerre mondiale. C'est fou, mais Guy Mazars a même inclus une carte du réseau de bus de l'époque.
Incroyable. Et ça a tout changé?
Carrément. Avec ces nouvelles lignes de bus, les familles, même dans les fermes les plus isolées, n'avaient plus besoin de mettre leurs enfants en internat.
Le pensionnat est passé de nécessité à simple option.
Exactement. C'est devenu un choix, puis une charge. L'article mentionne aussi, bien sûr, des raisons économiques. L'entretien des dortoirs, la cantine, tout ça devenait prohibitif. C'est vraiment la fin d'un monde.
Donc les lits sont vides, les couloirs silencieux, on s'attend à ce que l'espace soit transformé en salle de classe, peut-être une bibliothèque.
Eh bien non. C'est là que le récit prend un virage à 180 degrés. Un truc totalement inattendu.
C'est-à-dire...
Le lieu devient une école de rééducation.
Ah oui, quand même, le mot est lourd de sens. Aujourd'hui, ça peut même faire un peu peur.
Oui, et c'est très important de le remettre dans son contexte. Le bulletin l'explique très bien. Le terme rééducation à l'époque n'avait pas forcément la connotation punitive qu'on imagine aujourd'hui.
C'était pour quel public alors?
Il s'agissait de centres pour des jeunes en très grande difficulté sociale. Des orphelins de guerre, des jeunes déscolarisés, parfois certains qui avaient commis de petits délits. L'idée, c'était de leur donner un cadre.
Un cadre très strict, j'imagine.
Oui. Très strict pour les remettre sur le droit chemin, et ce, principalement par le travail manuel.
Et le bulletin nous donne des détails sur cette période, sur la vie à l'intérieur?
Absolument. Il y a des extraits de témoignages qui sont assez saisissants. On découvre un quotidien quasi militaire.
Ah oui, hein?
Levé à 5h30, travail aux ateliers de forge ou de menuiserie toute la matinée, très peu d'enseignement général l'après-midi, et extinction des feux à 21h.
Le but n'était donc pas l'épanouissement intellectuel.
Non. Clairement pas. L'objectif, c'était l'apprentissage d'une discipline et d'un métier. C'est une facette très dure, et souvent oubliée, de l'histoire de ces institutions. Le bâtiment n'est plus un lieu d'éducation au sens noble, mais un outil de contrôle social.
Le contraste est saisissant. Mais cette phase, heureusement, ne dure pas éternellement, si je comprends bien.
Non. on sent une nouvelle transition, plus positive cette fois, avec le chapitre suivant. Il s'intitule « École d'artisanat rural ».
D'accord. Donc on garde l'idée du travail manuel, mais l'intention semble radicalement différente.
C'est exactement ça. On passe de la réparation d'individus à la construction de compétences pour un territoire.
Le mot « rural » est important, j'imagine. Il est la clé. On est dans l'Aveyron de la reconstruction, de la modernisation agricole. L'école s'adapte aux besoins criants de son environnement. L'article liste très précisément les ateliers créés. Mécanique agricole, forge, charpenterie, maçonnerie. On ne forme plus des jeunes pour les mater, comme vous disiez, mais pour construire.
Voilà, on forme les artisans qui vont construire et réparer les nouvelles machines, les nouveaux bâtiments agricoles. C'est une réponse directe à la mécanisation des campagnes.
Ce qui m'a frappé dans la source, c'est cette mention que les premiers diplômés, ils étaient embauchés avant même d'avoir fini leur cursus.
Ouais, les fermes locales se les arrachaient. Ça montre à quel point l'école était devenue vitale pour l'économie du coin.
C'est la preuve d'une adéquation parfaite entre la formation et le besoin.
Tout à fait. L'école n'est plus un lieu clos. Elle est connectée à son territoire, elle en devient un moteur. Et c'est cette dynamique qui va l'amener à sa forme la plus connue, celle qu'on découvre dans l'article « Pensionnaire au lycée technique Monteil ».
Le mot « lycée », ça change tout. C'est une forme de concentration.
C'est la reconnaissance. On passe d'une école locale à un lycée reconnu par l'éducation nationale avec des diplômes d'État. C'est une montée en gamme.
Mais ce que je trouve touchant, c'est que le bulletin consacre tout un article à la vie de pensionnaire. On revient à cette idée de communauté, de vie partagée.
Oui, et cet article est rempli d'anecdotes. Il y a ce témoignage savoureux d'un ancien élève des années 70.
Ah oui, celui sur l'évasion benne.
Exactement. Il raconte comment lui et ses camarades avaient mis au point un système de cordes pour descendre en rappel depuis la fenêtre du dortoir et aller au bal du village.
C'est formidable. Ça montre que malgré le nouveau statut de lycée technique, la vie, les amitiés, les bêtises d'adolescents, tout ça continuait.
L'âme du lieu, cet esprit de corps, a survécu à toutes les transformations. Et en parallèle de ces grandes étapes, les sources de Guy Mazard pointent deux éléments qui pourraient sembler secondaires, mais qui en disent long. Le premier, c'est un titre très court, « La Méridienne ». Oui, c'est presque mystérieux. On s'attend à l'histoire d'un cadran solaire sur une façade.
C'est ce que je pensais.
Mais la réalité est encore plus intéressante. Le bulletin explique que la Méridienne, c'était en fait le nom du journal scientifique et technique du lycée.
Ah, d'accord.
Entièrement réalisé par les élèves et les professeurs entre 1965 et le début des années 80. La source a même reproduit la couverture du premier numéro.
Quel symbole quand on y pense. Pour un lycée technique, choisir un nom qui évoque la précision, la mesure du temps, la science, c'est une sacrée déclaration d'intention.
C'est une affirmation de fierté pour la culture technique.
J'adore cette idée. Et le second élément, c'est l'amical. On pourrait se dire, bon, une simple association d'anciens élèves.
Mais le bulletin lui donne un rôle bien plus central. C'est la gardienne du temple, en quelque sorte. La mémoire vivante du lieu.
C'est elle qui fait le lien.
C'est crucial. L'article révèle que ce sont les membres de l'amicale qui ont fourni une grande partie des témoignages et des documents. Sans eux, des pans entiers du passé, notamment la période plus sombre de l'école de rééducation, seraient tombés dans l'oubli.
C'est elle qui fait en sorte que Camoni et les Monteil racontent bien la même histoire, au fond.
C'est exactement ça. Et ça nous ramène, pour finir, à l'homme qui a donné son nom à tout ça. Le dernier article boucle la boucle. Amance Alexis Monteil, on comprend enfin pourquoi lui. Amance Alexis Monteil était un historien aveyronnais du 19e siècle. Et c'était un pionnier. Il a été l'un des premiers à s'intéresser non pas à l'histoire des rois et des batailles,
mais à l'histoire du peuple.
Voilà, à la vie quotidienne, aux outils, aux coutumes. Du coup, le choix de son nom pour un lycée technique, c'est d'une intelligence remarquable.
On donne à un lieu de formation manuel le nom d'un intellectuel qui a valorisé la culture populaire. C'est une façon de dire, ici, on ne fait pas que former des techniciens. On forme des gens cultivés, conscients de leur histoire et de leurs valeurs. C'est une très belle idée, c'est certain. Mais est-ce que les sources nous disent si ce message a été bien perçu à l'époque ou si certains y ont vu une tentative un peu artificielle de donner des lettres de noblesse à l'enseignement technique?
C'est une excellente question. Le bulletin n'évoque pas de polémique directe, mais il souligne bien le caractère délibéré de ce choix. C'était une affirmation politique forte, une manière de lutter contre le mépris qui pouvait exister envers les filières professionnelles.
Une façon de marier la tête et les mains?
Exactement. On unissait la culture et la technique. C'était un message fort, tourné vers l'avenir.
Alors, si on résume ce parcours, c'est incroyable. On part d'un lieu-dit, Camonil, ça devient un pensionnat qui ferme, puis ce surprenant centre de rééducation
qui se transforme en école d'artisanat pour répondre aux besoins du territoire.
avant de devenir le lycée technique Monteil, un établissement moderne fier de sa culture technique, symbolisée par la Méridienne et dont la mémoire est portée par son amicale. Chaque étape raconte une facette de l'histoire de la France.
Absolument. L'histoire de ce seul bâtiment, c'est une formidable leçon d'histoire sociale. Elle nous montre que l'éducation n'est jamais figée. C'est un organisme vivant qui s'adapte, qui répond aux crises, aux besoins économiques.
Et ce qui est touchant ici, c'est qu'après toutes ces vies, après avoir été modelé par les grandes politiques, le lieu a fini par s'ancrer dans son identité la plus profonde.
Celle de son terroir, en prenant le nom d'un enfant du pays. La boucle est bouclée.
Et ça nous laisse avec une question au fond. On a tous près de chez nous un de ces bâtiments, un collège en briques, un lycée un peu vieillot. On pense les connaître, mais si on creusait un peu, si on cherchait dans les archives, quelles histoires inattendues, quelles vies oubliées, leurs murs nous raconteraient-ils ?